Bonjour à tout le monde et merci Eddie pour ces moments que tu nous as conduits dans la présidence avec un fil conducteur qui nous rappelle la grandeur et la puissance de notre Dieu et aussi notre petitesse en tant qu'homme qui devrait être sous sa garde et vraiment être soumis à son autorité, à sa souveraineté. Voilà, merci parce que ça nous permet en tout cas de pouvoir encore prolonger notre repas, pas comme les autres. Et ce matin, le Seigneur en tout cas a mis dans mon cœur que nous puissions nous rappeler de l'importance du repas, de l'importance particulièrement du repas du Seigneur, parce que le repas, souvent, avec le confinement, nous voyons que le fait que les restaurants sont fermés, on ne peut pas arriver, on ne peut pas s'inviter, on ne peut pas avoir un barbecue ensemble, et ça fait que vraiment, ça nous limite, et finalement, ça nous rappelle effectivement que ce que le Seigneur a fait pour nous et comme symbole est quelque chose de très important et ça mérite que nous puissions nous rappeler et l'honorer à travers ce qu'il a fait pour nous. Donc, j'aimerais nous inviter simplement à lire Marc 14, versets 22 à 24 et le verset 1 Corinthiens 11, versets 17 à 33. Nous allons faire des parallèles d'allusion, mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Marc 14, versets 22 à 24. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donne à ses disciples en disant: Prenez ceci et mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit: Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Voici ce repas que le Seigneur a préparé juste avant d'aller à la croix. Ici, nous voyons que Jésus invite ses disciples avant d'aller à la croix. Jésus offre un banquet à ses disciples. Comme votre ami ou votre connaissant, avant de vous quitter, vous invite au resto et vous partagez de bons moments et il essaye de donner l'importance de ce que tu as dans sa vie et aussi de ce que lui aussi il doit avoir dans ta vie. Une fois j'ai pu avoir cette occasion, un ami qui est américain, qui est venu au Burkina pour une mission, et on est resté ensemble durant tout son temps de mission. Et à la fin de sa mission, il m'invite et il partage ce temps avec moi. Et souvent, je me suis posé la question, est-ce qu'au cours de ces moments, qu'est-ce que je dois retenir réellement? C'est le repas où je dois me concentrer dessus ou bien c'est ce qu'il a pour me dire, me partager qui serait important. Et à la fin du repas, il m'a remis une guitare en disant: Abdoulaye, ça, cette guitare, dès que tu vas le prendre, ça sera l'image, l'objet que je vais te laisser au Burkina. Et lorsque tu vas jouer à la guitare, pense qu'il y a ton frère aux États-Unis qui est là et aussi qui prie pour toi. Et là, ça m'a beaucoup fait du bien. Et chaque fois que je reprends la guitare, même si je ne joue pas, si je vois la guitare, immédiatement, mes pensées vont vers lui en disant: Ah, c'est Jeff qui m'a donné cette guitare-là au Burkina. Et c'est là est un symbole pour, entre nous pour se rappeler, prier les uns pour les autres et surtout garder cette amitié que Dieu a permis que nous puissions tisser ensemble. Donc, Jésus voudrait laisser la mémoire, sa mémoire de cette manière, là, par une fête, par un repas. Il manifeste son amour en prenant du temps avec ses disciples pour manifester cet amour. Et aujourd'hui, effectivement, prendre du temps avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile, très rare. Parce que maintenant, tout le monde, personne n'a du temps. Personne, tous sont en train de courir et pour chercher soit au travail, soit des activités. Et finalement, on n'a plus de temps les uns envers les autres. Et effectivement, ici, Jésus veut rappeler que prendre du temps avec ceux qu'on aime, celles qu'on aime, est primordial dans la vie de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est que le repas du Seigneur? Alors, nous allons essayer de. Souvent, on lit rapidement le texte après juste partager le pain et le vin. Et finalement, ça ne dure pas 5 minutes ou 10 minutes, pas plus. Et c'est important que nous puissions nous arrêter et chercher à comprendre qu'est-ce que le repas du Seigneur implique pour nous. Quelle est son importance et aussi comment devrions-nous célébrer ce repas-là, cette scène? Nous allons, avant de commencer à comprendre, à chercher à comprendre l'importance, pourquoi on le fait, essayer de définir ce que c'est que la Sainte Cène. Nous observons deux pratiques symboliques établies par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le baptême et le repas du Seigneur. Certaines communautés l'appellent l'Eucharistie, qui signifie action de grâce. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est ce que Jésus a fait dans Marc 14. Il a pris au cours du repas, il a pris le pain et il a rendu grâce. Il a témoigné sa reconnaissance envers Dieu et envers son Père. La scène vient du latin cena, qui veut dire dîner, c'est-à-dire un repas fraternel. Et donc, chaque fois que nous sommes à table, nous nous rappelons que nous sommes en communion avec le Seigneur. La scène vient avant d'aller à la croix pour donner sa vie en rançon à notre place comme l'agneau sans défaut pour notre salut. Jésus prend du temps avec les siens autour d'un repas. Par là, Jésus donne une coloration pascale à ce repas. Ainsi, chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène, nous célébrons aussi Pâques, comme Ésaïe 53, verset 6 nous le dit. Oui, il a été amené comme une. Comment je vais le relire. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait de son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes que nous méritions, les fautes de nous tous. Et donc, on voit ici dans ce texte que Ésaïe décrit l'événement qui doit se passer à Pâques. Au lieu que ça soit l'agneau pascal, c'est Jésus qui va prendre notre place afin que de nous ramener dans nos errances, dans notre perdition, dans notre manque de lumière et dans notre ténèbre, il va nous amener dans son admirable lumière. Après avoir défini ce qu'est réellement la Sainte Cène ou le repas du Seigneur ou l'Eucharistie, comme le disent certaines communautés, nous allons voir qu'est-ce que la Sainte Cène nous rappelle. Est-ce que lorsque nous célébrons la Sainte Cène nous rappelle de sa grâce, la grâce que le Seigneur a donné pour nous. il a pris notre place. Se rappeler, se souvenir de sa mort. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour tous. C'est ce que le Seigneur veut véritablement que ses disciples retiennent. Ne pas oublier que le Christ est mort pour nous. Et il veut que non seulement de ne pas oublier, mais de rappeler ça régulièrement. Parce que facilement, on peut oublier. On peut oublier que nous étions errants, nous étions dans un monde de ténèbres et que le Christ est venu nous chercher par sa mort et nous contenter en disant, voilà, je suis sauvé et puis voilà, le reste, je ne m'en souviens plus. Alors qu'en célébrant la Sainte Cène, le Seigneur veut que nous nous rappelions où nous étions. Les souvenirs, c'est bien de se souvenir, c'est bien de savoir où tu es, d'où tu es venu, comment tu es venu à Christ, comment le Seigneur t'a permis d'être là, d'en arriver là, et avec des regards de reconnaissance et d'action de grâce. Rappeler, c'est regarder en arrière et nous rappeler que le corps de Christ a été brisé pour nous. Le corps de Christ a été brisé. Et souvent, quand je lis ce texte, le corps de Christ a été brisé pour nous. Et ça me fait frémir. Même avec mes petits bobos, souvent, j'ai du mal à dormir. Souvent, avec un petit bobo, une contusion, j'ai dit, oh là là, je souffre énormément. Alors que lui, son corps a été brisé à la croix, c'est-à-dire a mis des pointes sur ses pieds, sur ses mains. Et il a même montré à ses disciples les cicatrices de ses blessures, les cicatrices de ses brisures. Et cela nous rappelle que le Christ nous aime tellement. Et verset 1 Pierre, nous allons le lire. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par les blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais à présent, vous êtes retourné vers le berger qui veille sur vous. Amen. Quand je lis ces textes, ça me donne beaucoup de joie parce que le Christ a porté sur lui ce qui devait tomber sur moi. Le Christ a porté dans son corps ce qui devait tomber sur nous afin que nous puissions bénéficier de sa grâce, vivre sa grâce. Et rappeler du but ultime de sa mort, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, nous rappelle aussi. Se rappeler qu'il est mort volontairement, il a livré son corps. Romains 5, verset 8 nous dit qu'il a livré son corps, il nous a donné gratuitement cette grâce, mais pas par force. Le Christ n'est pas mort, n'est pas allé à la croix d'une manière obligée. Il n'a pas été entraîné par la force des hommes. Mais c'est lui-même qui a pris la décision. Il a pris cette initiative par amour pour nous afin de donner sa vie à la croix pour chacun de nous. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Au moment même que nous étions pécheurs, que nous ne pensons pas du tout à lui, à Dieu, Christ s'est livré à la croix pour chacun de nous. Quelle grâce! Rappelons-nous de cette grâce. Parce que si nous ne nous rappelons pas de cette grâce que Dieu nous a accordée, souvent nous aurons du mal à vivre par la grâce et aussi à vivre, à accepter que cette grâce, même grâce que nous avons reçue, est aussi donnée aux autres, est aussi donnée, invitée aux autres à recevoir cette grâce. Le deuxième point, c'est une invitation. Ici, c'est marqué 3, mais comprenez que c'est le deuxième point. Une invitation. Le Seigneur nous invite à sa table. Il veut manger avec nous. Il veut prendre du temps avec nous. Il veut vraiment nous écouter les uns les autres et permettre que nous passions de bons moments avec lui en attendant ce banquet final, ce banquet de qui nous introduira dans l'éternité. Le Christ nous invite généreusement à sa table. Manger avec quelqu'un, c'est vraiment l'aimer. Et inviter quelqu'un ce soir et partager un repas avec lui, c'est vraiment manifester de l'amour. C'est pourquoi le Seigneur l'a fait. Il a préparé ce temps-là. Il a envoyé ses disciples pour prendre ce temps spécifique avant d'aller à la croix, avant de cheminer vers la croix. Prenons du temps les uns avec les autres. Que le Seigneur nous aide à véritablement mettre quelque chose d'important dans le fait d'aller à table avec les uns et avec les autres en tant que frères et sœurs au sein de l'Église. Le dîner n'est pas juste un rappel historique, mais aussi une réalité spirituelle qu'il faudrait s'approprier. Quand vous êtes invité au cours d'un repas, je ne pense pas que vous prenez votre fauteuil et vous vous asseyez, regardez les autres manger. Je pense que si vous êtes invité à un repas, vous êtes participant à ce repas-là. Vous êtes aussi associé à ce repas. Et Jésus associe ses disciples en mangeant avec eux. Et aujourd'hui, en rappelant cette invitation que le Seigneur nous fait, et en étant en Église et en célébrant la Sainte Cène, nous sommes tous participants à ce repas que le Christ nous offre ensemble. Nous sommes en communion avec Christ par la foi dans nos cœurs aujourd'hui. 1 Corinthiens 11, verset 26, nous le dit que c'est par ce rappel et cette invitation à communier avec lui que, à travers ce repas, que réellement, nous, par la foi, nous nous approprions de cette communion que le Seigneur nous a adressée et par la foi. Nous nous approprions de l'espérance aussi future. L'espérance, c'est quelque chose non seulement qui est qui est théorique et quelque chose qui est très loin de nous, mais nous nous approprions de l'espérance en mangeant ensemble, en nous invitant les uns les autres et en célébrant la Sainte Cène. Ça veut dire que nous sommes en train de dire, voilà, nous nous approprions cette espérance parce que nous partageons une seule et même espérance en Christ. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Donc, en rappelant ces moments du repas du Seigneur, nous rappelons que nous avons une espérance commune. Il y a quelque chose que nous attendons tous, c'est l'avènement du Seigneur. Lorsque le Seigneur va venir, alors nous pourrons entrer pleinement dans ce banquet final, dans cette invitation que le Seigneur nous a donnée pour l'éternité. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné des cartes d'invitation où il est écrit, vous êtes invités à passer ce banquet d'éternité avec le Seigneur. Et cette invitation continue d'être distribuée dans le monde. Et nous sommes participants à la distribution de ces cartes d'invitation. Invitez nos frères et sœurs, invitez nos amis, invitez ceux-là qui n'ont pas encore eu la carte d'invitation à passer l'éternité avec le Seigneur, à venir à ce banquet afin qu'ils puissent avoir la possibilité de participer à ce banquet que le Seigneur nous invite. Ensuite, vient un moment aussi d'avertissement au moqueur, parce que c'est vrai que souvent, vous avez déjà entendu, peut-être même au début de la Sainte Cène, il y a eu des moqueries, et il y a eu des accusations. Les chrétiens sont des cannibales. Les chrétiens sont des gens qui sont à part et chaque fois quand ils se réunissent, ils mangent le corps et ils boivent le sang. Ce sont des cannibales. Et c'est une façon de se moquer, de se dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Et le Seigneur ici veut avertir. Le verset 27 nous dit, ne vous, ne, de venir devant lui d'une manière digne, de participer au repas d'une manière digne. Mais cela veut dire au verset 27 que nous ne méritons pas d'être dignes pour participer au repas, mais simplement de participer au repas d'une manière digne. Et cette phrase souvent est très importante que nous puissions la clarifier. C'est pas parce que je suis digne que je participe au repas du Seigneur. Personne n'est digne sinon que le Christ lui seul est digne d'être en relation avec le Père et de partager cette réalité du Père avec cette communion avec le Père. Mais simplement, le Seigneur nous dit ici, oui, vous n'êtes pas digne, mais venez, vous allez participer d'une manière digne parce que moi, j'ai accompli tout ce qui doit être, vous permettre de participer d'une manière digne. Un jour, dans une église, et au cours du repas du Seigneur, on a lu le verset 1 Corinthiens 11 et au verset 27, on dit que ceux qui ne sont pas, je n'ai pas participé d'une manière indigne au repas du Seigneur. Et il y a une dame qui était en train de pleurer à chaudes larmes et par culpabilité ou je ne sais pas. Et le pasteur est descendu vers la dame et lui a posé la question, Madame, pourquoi vous pleurez? Et la dame a dit, vous avez lu le texte, mais moi, je ne suis pas digne. Je ressens de la culpabilité. Et le pasteur lui a dit, le Seigneur est mort pour les coupables. C'est justement parce que nous sommes pécheurs que le Seigneur nous invite à participer à sa table. Et là, la dame a compris autrement. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes que nous pouvons participer à la table du Seigneur, mais parce que le Christ a fait de telle sorte que nous soyons dignes, que nous nous présentons devant lui d'une manière digne, lavés de nos péchés, lavés de notre culpabilité, lavés de tout ce qui peut nous condamner afin d'être libérés de tout poids de la culpabilité, afin de partager ce repas que le Seigneur nous offre. Cette table, belle table que le Seigneur a garnie des repas, des mets succulents, de la grâce divine pour nous. Confesser notre péché au Seigneur pour partager son repas. J'espère bien que si vous êtes invité à table ici, effectivement, en Occident, on ne mange pas à la main, mais chez nous, en Afrique, généralement, on mange ensemble avec la main et nos mains se croisent. Et lorsque tu es invité à un repas, la meilleure des choses de faire, c'est de laver ta main avant de venir. Et là, ça montre que je participe d'une manière proprement à ton repas. Je respecte ton repas, je respecte ton invitation. Je ne viens pas avec des mains sales. Je viens avec une main propre. Parce que ma main va croiser ta main. Ma main va montrer en solidarité, en mangeant dans le même plat que nous sommes solidaires. Nous sommes des amis. Nous sommes aussi de la même famille. Et c'est ce que le Seigneur fait avec ses disciples. Après le lavement des pieds, nous voyons clairement qu'il les amène vers le repas. Je vous lave les pieds. Vous n'avez pas besoin de vous doucher tout le corps parce que vous êtes déjà dans le salut, dans la grâce de Dieu. Vous êtes propre, vous êtes débarrassé de toute culpabilité. Mais maintenant, je vous amène au repas à table. Simplement, si nous avons quelque chose, lavons nos mains, lavons nos pieds afin de pouvoir nous approcher de notre Seigneur pour partager ce bon repas avec lui. Considérez le corps du Christ. Un seul pain, un seul corps uni en lui. 1 Corinthiens 10, verset 17 nous dit qu'en partageant le repas avec le Seigneur, nous nous rappelons que nous sommes de la même famille. Nous formons un seul corps. Nous formons une seule famille avec le Christ et dont le Christ est le chef de famille. Imaginez-vous, quel chef de famille veut offrir un repas à la famille et les enfants sont en train de se bagarrer et les enfants sont en train de se rouspéter, de se donner des coups de pied. Non, tout chef de famille qui respecte réellement sa famille veut que ses enfants s'entendent, ses enfants se parlent, ses enfants ont l'occasion de manger le repas, de prendre le repas soit une occasion de se réjouir. C'est une réjouissance, c'est une fête, c'est un banquet. Voilà, et on mange, on taquine, on raconte notre journée ou nos difficultés ou nos projets ensemble et on se régale dans la joie du Seigneur. Et c'est ce que le Christ veut avec nous, que le Seigneur permette que lorsque nous sommes ensemble et que nous partageons son repas ensemble à sa table, que nous puissions être ses enfants véritablement qui s'entendent, qui communiquent, qui avons tous l'idée que nous sommes un seul corps, un seul unis en lui, en Christ. Le Seigneur veut et aime que sa famille reste unie. 1 Jean verset 4, verset 11 nous le dit. Le Seigneur nous a manifesté son amour. Il a manifesté clairement qu'il nous aime. Il veut que chacun de nous puisse vraiment démontrer son amour les uns envers les autres. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Le Seigneur veut dire à ses disciples, je vais partir, mais je ne veux pas entendre des divisions parmi vous. Je ne veux pas entendre du bruit parmi vous. Je ne veux pas que vous vous querellez parce que moi, je vous ai aimé. J'ai livré mon corps pour vous. Mon amour a été tellement à la hauteur que j'ai donné ma vie à la croix, mon sang et mon corps pour vous, pour manifester mon amour. Et le Seigneur nous dit, nous n'avons même pas eu des tentations, eu des difficultés jusqu'au sang, jusqu'à livrer notre corps. Et donc, le Seigneur ici nous appelle à l'amour les uns avec les autres. Le quatrième élément, non pas le cinquième, ici j'ai raté mes numérotations, mais ce n'est pas grave. Le quatrième élément que nous pouvons retirer ici, le Seigneur annonce un jugement sur l'indifférence, c'est-à-dire ceux qui vont banaliser son sacrifice, ceux qui vont prendre à la légère ce qu'il a accompli à la croix. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut balayer comme ça. Le Christ a donné sa vie et mérite tous les respects pendant ses repas, pendant le repas du Seigneur, et non pas pendant le repas du Seigneur, mais toute la vie de l'Église. Toute la vie de l'Église, la colonne vertébrale de la foi des chrétiennes, c'est parce que Christ est mort à la croix. Et donc, je ne peux pas juger mon frère pour qui Christ a donné sa vie à la croix. Je ne peux pas prendre le frère comme un païen au moment que Christ a donné sa vie à la croix. C'est juger la personne, et alors que c'est lui seul qui est le juge. Partager le repas sans connaître la valeur et la portée du sacrifice de Jésus est vraiment quelque chose qui peut être ne pas être bien pour nous, parce que nous ne connaissons pas la valeur du Christ. La valeur du Christ, c'est parce qu'il a payé sa vie à la croix pour nous. Au lieu de la bénédiction et une croissance spirituelle de la croix, elle apporte punition si nous participons avec légèreté. Et au Hébreux 12, versets 1 à 11, je vais juste lire les versets un seul verset dans ce texte qui nous rappelle combien il est important de respecter le corps du Christ, le sacrifice du Christ. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il connaît pour ses fils. Le Seigneur ne nous condamne pas, mais simplement il nous ramène sur le bon chemin. Il nous corrige comme ses enfants. Aujourd'hui, la correction est bannie, effectivement, par notre société. Corriger un fils, si tu corriges ton fils, tu risques d'avoir des soucis parce que la loi l'interdit. Mais le Seigneur nous dit ici que nous manifestons notre amour souvent par la correction. Lui, il a manifesté son amour en disant, en allant à la croix. Et le Père manifeste son amour envers son Fils en corrigeant si le Fils ne marche pas bien ou va vers un chemin qui n'est pas autorisé. Et le Seigneur, dans sa punition, ce n'est pas pour nous écraser, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est juste pour permettre que nous puissions nous ressaisir. Et une personne a prié tout à l'heure et que la grandeur de Dieu nous rappelle aussi notre petitesse et la confession et la repentance. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous nous endurcissions jusqu'à dire maintenant je ne me repens plus je reste toujours sur ma voie. Je ne me détourne pas de ma mauvaise voie et je reste sur mon chemin. Le Seigneur veut nous ramener sur le bon chemin quand il nous corrige, quand il nous reprend, quand il nous dit ce que tu as fait, tu dois aller demander pardon. Tu dois dire, confesser clairement que j'ai eu tort, j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal et je demande pardon. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Le jugement de Dieu prouve effectivement son amour pour les siens. Le Seigneur veut collaborer avec notre obéissance. Son amour et notre obéissance vont de pair. Dès que nous manifestons notre soumission et notre obéissance au Seigneur, et voici la façon dont le Seigneur va encore manifester sa grâce envers nous, nous relever et nous donner la possibilité de nous ressaisir. Si le Seigneur corrige, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Si le Seigneur punit, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais simplement c'est parce qu'il nous aime autant qu'il ne veut pas que nous nous endurcissions vers une voie qu'il n'aime pas que nous prenions. En conclusion, nous allons nous rappeler les principes de base concernant le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur comme un repas familial dans l'unité. C'est vrai, ça fait longtemps que nous n'avons pas pris ce repas ensemble et ça nous hâtons de prendre ce repas ensemble pour manifester notre unité ensemble en partageant ce repas ensemble dans la grâce de notre Seigneur. Afin que cette unité que nous avons déjà en Christ puisse se manifester concrètement les uns envers les autres ensemble dans la communion. La scène comme une occasion de se confesser et se préparer avant de venir devant le Seigneur. C'est une occasion pour nous, oui, de dire, Seigneur, pardonne-nous si nous avons fait des errements, si nous avons péché, si nous ne sommes pas bien comportés les uns envers les autres. Seigneur, pardonne-nous parce que nous voulons venir les mains propres devant ta table, manger avec toi sereinement, dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, pour te faire plaisir, pour que tu vois que tes enfants s'aiment les uns les autres. Tes enfants, l'amour que nous pouvons avoir les uns les autres, plaît Dieu. Il voit ses enfants qui s'aiment, qui s'embrassent, qui se qui se donnent des félicitations, qui s'encouragent, qui se donnent la main les uns envers les autres pour continuer la marche de notre vie chrétienne. La scène comme une attente joyeuse du retour de Christ. En célébrant la Sainte Cène, nous disons ensemble d'une manière, dans l'unité et en communauté, Seigneur, viens, nous t'attendons. Nous attendons avec joie ton retour. Lorsque tu vas revenir, et voici, nous allons pouvoir véritablement vivre cette fête, ce banquet avec beaucoup plus de joie et de paix ensemble. La tristesse ou la recherche d'une autopsie spirituelle n'a pas sa place, mais la reconnaissance et une action de grâce pour le salut qu'il nous accorde. Oui, le moment de la célébration de la Sainte Cène, souvent on cherche à voir, qui n'a pas pris la Sainte Cène, peut-être il y a un problème. C'est ça la recherche de l'autopsie spirituelle. Peut-être il ne prend pas la scène, peut-être il a quelque chose. Non, la Sainte Cène est là pour être reconnaissant envers le Seigneur et surtout nous préparer avant de venir devant la Sainte Cène. Partager ce repas ensemble, ce n'est pas quelque chose qui va rechercher des coupables ou des personnes qui ne sont pas prêtes pour préparer, pour accéder à la table du Seigneur, participer à la table du Seigneur, mais surtout une reconnaissance et une action de grâce. Un banquet sera célébré en grande pompe au retour de Jésus avec tous, avec tout le monde qu'il a constitué comme son peuple, avec tous ceux qu'il a constitué comme son peuple. Nous allons lire Apocalypse, Ésaïe 25, versets 6 à 10 d'abord, et ensuite Apocalypse 19, versets 6 à 7 pour conclure. Ésaïe 25, versets 6 à 10. Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle arrosée de vin vieux et dûment clarifié. Il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes et sur toute la terre. Il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu et en qui nous espérions. Il nous a délivrés. Oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons et réjouissons-nous puisqu'il nous a sauvés. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se reposera comme une protection. Mais Moab sera piétinée sur place, tout comme de la paille qu'on foulera aux pieds dans la fosse Purin. Voilà le chapitre 25, verset 6 à 10, nous montre le festin à venir, le festin dont le Seigneur prépare pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui l'ont aimé. Apocalypse 19, verset 6 à 8, « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux, et au grondement violent du tonnerre, elle disait Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin pur éclatant. Le lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Voici, nous sommes tous déclarés justes et nous sommes tous invités à la table du Seigneur et nous sommes tous de ceux-là qu'il veut nous voir à table dans la réjouissance, dans la joie, dans la paix et surtout dans l'unité. Ici, retenons ce qui est le plus important pour nous, l'unité des cœurs, l'unité de notre corps, du corps de Christ, l'unité, Seigneur, de notre Église, que nous puissions ensemble, jubiler ensemble, prendre ce repas vraiment dans un état d'esprit d'unité, dans un état d'esprit de réjouissance avec notre Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui est oui et amen. Oui, Seigneur, tu nous rappelles que à cause de nos péchés, de nos manquements, tu as donné ta vie pour nous, en rançon pour nous, pour notre salut. Oui, avant d'aller à la croix, Seigneur, tu as pris du temps avec tes disciples. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons, oui, prendre du temps les uns avec les autres. Nous voulons ensemble partager ce repas, oui, que tu nous donnes à travers ta parole, les uns avec les autres, dans la joie, dans la paix, dans l'unité et dans la reconnaissance. Comme tu l'as fait, Seigneur, tu as dit à tes disciples de prendre ce repas en mémoire de toi, parce que tu ne veux pas qu'ils oublient, oui, ce que tu as fait à la croix. Tu ne veux pas qu'ils enlèvent ça de leur vie, mais que ça soit la centralité, le cordon ombilical qui nous lie les uns les autres, la colonne vertébrale de notre foi. C'est parce que tu as donné ta vie à la croix pour nous sauver. Que aucune autre chose nous fasse voir et ou comprendre quelque chose qui n'est pas de toi. Seigneur, je vois mon frère et ma sœur à travers ta croix. Parce que tu as donné ta vie pour elle, pour lui. C'est pourquoi je l'aime aussi. C'est pourquoi je partage aussi cette communion et avec lui, Seigneur. Merci parce que nous sommes tous tes enfants, sans exception, parce que nous avons placé notre foi et notre vie entre tes mains. Et c'est toi qui es le chef de famille. Et c'est toi qui dirige ta famille, ton église, et qui veux que ton église soit une église saine, une église où il y a la joie, une église où il y a la paix, une église où tes enfants peuvent se faire confiance les uns les autres et s'apprécier les uns et les autres et se féliciter les uns les autres à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te demandons de protéger ton église comme l'église de Corinthe. Oui, il y a eu des disputes, des manquements, de la rivalité au cours de ce repas et que tu ne félicites pas, Seigneur. Tu félicites les croyants, Seigneur, à travers ce chapitre 11, oh, de leur reconnaissance à travers ce que tu as accompli. Mais tu ne les félicites pas du fait qu'ils se sont tournés les uns contre les autres dans la division, dans les disputes, dans la rivalité. Seigneur, aide-nous, protège ton Église de toute rivalité, de toute attitude, oui, Seigneur, qui sèmerait dans ton Église, oui, des temps de divergence et, Seigneur, de manque d'amour, Seigneur. Merci parce que tu l'as déjà fait. Et, Seigneur, tu es en train de prier aussi pour notre Église, afin que notre Église soit unie, ta famille soit unie et que tes enfants puissent se réjouir les uns avec les autres autour de toi à ta table pour rendre grâce et reconnaître ce que tu as accompli à la croix. Que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen.